Comment évoquer les liens singuliers qui nous unissent à nos parents? Comment mesurer leur influence sur nos propres destinées? Comment transformer leur existence en œuvre littéraire? Après Papa, en 2020, vous publiez désormais Maman. Pour répondre à toutes ces questions, vous avez le profil idéal. Dans Papa, vous mélangiez réalité et fiction pour romancer la vie de votre père mort en 1988. Ce non-père, ce petit peu de père, comme vous le décriviez alors.
Il était absent en ce sens qu'il était sourd, complet, et qu'il était bipolaire sous aldol. L'aldol est un neuroleptique qui réduit la personne à pas grand-chose, en fait.
En construisant ce texte, vous vous inventiez des souvenirs communs lumineux qui n'existaient pas. Écrire sur mon père, c'était une occasion de le sauver et de me sauver, de sauver ma relation avec lui. Papa a été publié la veille de la mort de votre mère décédée le 3 janvier 2020 à l'âge de 106 ans. Dès lors, presque chaque soir, vous prenez des notes dans un carnet. Même si l'un des buts de votre vie d'écrivain consistait à ne jamais parler d'elle, ces notes fournissent une matière pour l'écriture d'un roman. Elle, vous la nommez Madeleine, Mère, Maman, Mado, Magdalena, Madonna, Joséphine, José ou encore Madelon. En lui donnant plusieurs appellations, vous fabriquez un personnage, vous vous tenez à distance de celle qui a vraiment existé et votre culpabilité d'écrire sur elle s'allège. Tout au long de votre texte, vous mettez en exergue sa propension naturelle au mensonge. Pour plaire aux autres, elle mentait. Pour se faire plaindre, elle mentait. Pour se faire aimer, elle mentait. Rude avec cette folle qui vous a follement aimé selon vos propres mots, vous rédigez néanmoins à votre tour une déclaration d'amour. Vous considérez aujourd'hui que ces affabulations ont forgé votre caractère de romancier et vous précisez « Cette femme m'habite donc, elle utilise ma main pour écrire tout ce qui lui passe par la tête. »
Ah oui. Oui, je crois que oui. Oui, je crois que là, mon état de romancier, et je dis un état comme si c'était une maladie, oui, est tout à fait consécutif du fait d'avoir eu la mère que j'ai eue.
Mais parce que Mado, petite daronne, comme vous dites, ou vous dites aussi mère en série, elle mentait. Elle injectait de la fiction dans le réel, du jeu, et d'une certaine façon, c'est peut-être ce qui vous a constitué en tant que romancier, menteur professionnel.
Moi, je suis
enjoliveur.
Justement, je suis pas menteur, je suis romancier, et donc dans la vie courante.
Romancier même.
Oui, mais dans la vie courante, je mens pas, je mens très 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 mal. Non, le côté romanesque de ma personne, je le lui dois complètement. Mais le problème, moi, est pas tellement là, c'est que moi, je la croyais. C'est-à-dire que je me suis aperçu qu'elle mentait après sa mort. C'est-à-dire. Oui, après sa mort, je me suis aperçu qu'elle mentait toujours. Je ne savais pas.
Et ne divulguons pas à propos de quoi elle mentait. Qu'est-ce que c'est que la méritude? La mératrie. Mérée est une science exacte et pourtant nulle part enseignée.
C'est-à-dire, vous avez la plupart des mères qui sont mères, enfin moi je suis père, bon voilà, sans affectation particulière. Puis vous avez des mères qui se vantent de vous aimer. D'aimer leur enfant comme si c'était difficile, déjà. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles dans la vie, mais enfin, aimer son enfant. Enfin, je veux dire, les gens aiment bien leur chien. Je vois pas. C'est pas une performance d'aimer ses enfants. Il y en a d'autres. Hein. Se montrer à la hauteur de l'amour, peut-être. Mais ma mère a beaucoup mis en avant son amour et son amour de ce fils unique parce qu'il y avait un peu dans le lointain que si vous aviez déjà deux enfants, c'était un début de trahison. Si vous en aviez trois, vous les aimiez plus, quoi. Alors que quand on a des enfants, on sait que bon, c'est la phrase de Victor Hugo. Pour l'amour du père, chacun en a sa part et tous l'ont tout entière. C'est-à-dire qu'on peut avoir... Et donc ma mère m'a présenté son amour pour moi comme quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'éventuellement j'aurais pu ne pas être aimé, mais elle a choisi de m'aimer. C'est pas parce que j'étais son fils, c'est qu'elle a choisi de m'aimer, elle m'a choisi. Voilà, c'est quand même... Donc ça m'a un peu traumatisé, et me voilà, aujourd'hui.
Avec ce testament littéraire, parce que vous dites que c'est un testament littéraire.
Tout à fait.
Vous n'écrirez plus?
Alors, écoutez, je vais essayer d'écrire, mais...
Dites, vous allez mourir à 105 ans, en 160. Suicidé, c'est ce que vous annoncez.
106 ans, j'ai encore 36 ans.
Il va falloir écrire. Oui, mais il va falloir écrire. Benjamin.
Cette couverture, on l'a montré, mais elle est incroyable quand même. Vous tirez la langue, très franchement, mais vous nous tirez la langue à nous, parce que vous n'avez pas tiré la langue à votre mère, c'est ça? Vous n'avez pas pu le faire. Ah voilà, là vous le faites.
Ah ça y est.
J'ai été soudoyé.
Absolument.
Vous n'avez pas voulu
à tout.
À tout prix que je...
Vous n'avez pas pu le faire à votre mère dans à nos boulons.
Non, pas du tout. Non, c'est une photo. Je tire la langue à mon père d'ailleurs qui prend la photo. Non, ce qui prouve que j'avais une enfance qui n'était pas du tout une de ces enfants difficiles dont on nous parle souvent.
Et vous la coupez en deux.
Je l'ai coupée en deux. Mais ça c'est quelque chose d'un peu artistique. C'est-à-dire, vous savez, je fais des photos sur Instagram et je me coupe en deux souvent. Je trouvais que c'était pas mal, ça donnait.
Mais vous avez commencé avec la photo. Avant l'écriture, il y a eu la photo.
Oui, j'ai fait de la photo, oui.
L'argentique, vous avez mené à l'écriture.
La merveille de l'argentique, du laboratoire.
La merveille en deux mots, bien sûr. Oui. Oh là. Oui. Bon, alors Régis Geoffrey, vous n'êtes pas le seul, ça ne va pas vous étonner, à écrire un remaman. Non, dans cette rentrée littéraire. On en parle avec Anna.
Bah oui, non, c'est vrai, vous n'êtes vraiment pas du tout le seul. Regardez quelques exemples, c'est une liste non exhaustive. Il y a d'abord Amélie Nothomb qui, en cette rentrée littéraire, rend hommage à sa mère disparue dans son livre Tant mieux, un conte qui raconte en fait comment sa mère a réussi à mettre fin à la méchanceté féminine qui se transmettait de génération en génération. Il y a un autre auteur, Emmanuel Carrère, qui lui retrace le destin exceptionnel de sa mère. Hélène Carrère d'Encausse, fille d'exilés russes devenue historienne dans ce livre Kolkhoz. Raphaël Endoven, lui, détaille les dernières années de la vie de sa maman qui était atteinte de la maladie de Parkinson. Et puis Catherine Millet qui traite, elle, du suicide maternel dans Simone et Monet. Il y en a bien d'autres, évidemment. Mais dis donc, sérieusement, Régis Geoffrey, vous vous êtes tous appelés pour sortir vos livres en même temps ?
Moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai qu'une mère et qu'un père, et j'ai écrit un livre sur chacun, et que ça s'arrêtera là.
Mais... Et ça, c'était en 2020, c'était
tout
papa.
À voilà. Tout à fait. Non, moi, j'ai pas beaucoup encombré la littérature avec mes parents, parce que mon livre sur mon père, j'avais 66 ans, je crois, et avant, j'avais jamais parlé de mes parents.
Mais,
je suis pas coupable.
Mais c'était thérapeutique, peut-être ?
Non, je crois que c'est littéraire, vous savez, parce que c'est pas si thérapeutique que ça, parce que j'aurais pas été écrivain, j'aurais pas écrit. Parce que je me suis retrouvé avec ce cahier là où j'écrivais. Vous savez ce que c'était le cahier au départ ? Dry January, je sais pas si je le prononce bien.
Dry January, vous aviez fait le vœu de ne pas boire pendant
janvier. Non, de ne pas aller sur les réseaux sociaux.
Ah, très bien.
Je bois pas, mais
une détox numérique.
Et donc, parce qu'on nous avait dit que c'était une intoxication, etc. Donc je m'étais dit, je vais faire le mois de janvier, sans réseaux sociaux. Donc j'ai tenu un journal à partir du 28 décembre. Donc ça parle de cette chose jusqu'au 3. Et puis quand ma mère est morte, je parle de ma mère. Mais je me suis aperçu que j'étais pas du tout accro aux réseaux sociaux. Donc j'ai tenu ma... C'est une belle imbécilité. Bon, je suis pas allé sur les réseaux. Puis voilà, c'est tout.
Mais de toute façon, depuis Romain Gary, Proust, Annie Ernaux, Philippe Roth, Colette et d'autres, écrire sur son père ou sur sa mère, ça fait vibrer, résonner une corde universelle chez les lecteurs. C'est pas de l'infantilisation ou de l'égotisme,
non,
ça va plus loin que ça.
De l'égotisme, je pense pas, mais moi je suis égotiste comme un artiste. Mm-hmm. Donc, mais on n'est plus. Moi je préfère être égotiste avec d'autres choses qu'avec moi-même. Mm-hmm. D'autres égos que moi-même. D'autres égos que le mien.
Ah,
pas mal ça.
C'est pas mal. Carrère. C'est un clin d'œil à Emmanuel Carrère, d'autres vies que les miennes. Votre maman était-elle féministe ? C'est même pas une question. Vous, par contre, vous dites je suis un auteur féministe. Et c'est vrai que depuis 40 ans. Oui, mais depuis 40 ans, vous dénoncez l'inceste, la pédophilie, le patriarcat, la coercition patriarcale. Et ça fait 40 ans que vous le faites. Et vous pouvez dire je suis un auteur féministe.
J'ai été condamné pour ça. Condamné pour féminisme. Bon, ça,
c'est-à-dire
vrai. Mon livre sur DSK.
Sur Dominique Strauss-Kahn, absolument. Condamné.
Mais non, moi, c'est par hasard. C'est en me penchant sur des choses que je ne dirais pas que... Je n'irais pas jusqu'à me dire auteur féministe, ce serait un peu de la vanité. Non,
Très bien.
Mais vous oscillez beaucoup dans ce livre, quand même, entre provocation et émotion. Réel, à un moment donné, vous dites « Je regrette amèrement de ne pas l'avoir fait incinérer pour obtenir, en quelque sorte, une urne portative. » C'est vrai ou pas? Ou c'est la provoque.
C'est pas vrai. C'est vrai aussi. Vous savez, dans ce livre, il y a toute la vérité que j'ai sur les choses. C'est très peu de choses. Vous savez, c'est un peu comme si vous avez un peu de levure et en fait, un roman, c'est un gâteau. C'est-à-dire que ça doit être quelque chose de... Ça doit être quelque chose de, quand même de beau au niveau narration.
Faut que ça lève.
C'est-à-dire que moi, je vais vous raconter une histoire. Je raconte des aventures.
Oui.
Vous voyez, moi, ce que j'aime, c'est ces Ponsons du Terrail. Vous voyez, c'est les auteurs du 19e siècle. Et là, je suis très fier de moi, je vais en parler, de ma fierté. C'est mon entrée dans le caveau de famille. Parce que là, je suis un élève de Ponsons du Terrail. Et donc, je raconte cette histoire complètement invraisemblable, ce qui me préserve de la loi. Parce que c'est raconté tellement de façon invraisemblable qu'on ne peut pas imaginer qui a une once de réalité. Voilà. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai?
Ne divulgâchez pas.
Je ne spoil rien. J'ai horreur de ce mot divulgâché.
Bah, moi aussi, mais spoiler, c'est du globish.
Spoiler, c'est très joli.
Ah, très bien.
Alors, piano, c'est italien, je vous sais.
Vous avez raison. Donc, Allez, une phrase de Régis Geoffrey pour terminer. On ne crache pas sur la matrice qui vous a mitonné pendant 9 mois avec la tendresse d'une babouchka de chez Gogol. Et votre conclusion est admirable. Dans les toutes dernières pages, il vaut mieux aimer qu'être aimé. Parce qu'aimer, non mais aimer au sens de l'amour et d'aimer l'autre, ça transsubstancie celui qu'on est. Ça, c'est beau.
Bah, c'est-à-dire, je me suis aperçu surtout que j'étais incapable de faire autrement. Parce que si j'avais jeté ma mère aux orties, j'étais tout seul, j'étais sans amour, sans mère, sans enfance. Et en réalité, c'est très difficile de n'aimer personne. Ou alors, il faut haïr, mais c'est beaucoup plus... Il faut être un dictateur.
Ce sera le mot de la fin.
Quelqu'un d'autre.
Maman, Régis Geoffrey, aux éditions Récamier. Ça valait la peine. Merci.
Merci à vous.
Geoffrey.